Canal Académie.
La légende de Napoléon Bonaparte aurait-elle été la même sur le mémorial de Sainte-Hélène ? Probablement pas. Ce récit, qui apporte un éclairage nouveau sur l'empereur, à mi-chemin entre le roman et le témoignage historique, a été un grand succès d'édition dès sa première publication en 1823. Et derrière ce succès, un homme, fidèle compagnon de l'empereur, Emmanuel de Lascaz. Il a accompagné Bonaparte durant son exil sur l'île de Sainte-Hélène, de 1815 à 1816, une courte période durant laquelle il a recueilli des souvenirs et des réflexions de l'empereur. Bible des napoléonistes et des bonapartistes au XIXe siècle, le mémorial de Sainte-Hélène continue aujourd'hui de fasciner. La Fondation Napoléon organise les 15 et 16 novembre prochains un colloque à l'Institut de France consacré donc au mémorial de Sainte-Hélène. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Branda et de Charles-Éloi Vial. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pierre Branda, vous êtes le directeur scientifique de la Fondation Napoléon qui organise ce colloque. Et Charles-Éloi Vial, vous êtes conservateur des bibliothèques au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Merci de participer à cet entretien. Donc, le mémorial de Sainte-Hélène est un ouvrage incontournable pour toutes les personnes qui se passionnent pour l'histoire de France et en particulier pour toute la communauté napoléonophile dont vous faites partie tous les deux. Et commençons par parler de la personne derrière ce récit, l'auteur de ce manuscrit qui a déchaîné toutes les passions. Il s'appelle Emmanuel de Lascaz. C'est un descendant d'un seigneur espagnol. Qui est-il exactement, Pierre Branda?
Alors Emmanuel de Lascaz est un ancien émigré qui arrive sur le tard près de Napoléon. C'est un obscur dans la galaxie napoléonienne. Il est chambellan, il apparaît à la cour grâce à Joséphine. Il est auditeur au Conseil d'État, il deviendra conseiller ensuite. Mais c'est quand même quelqu'un de très lointain et que Napoléon ne connaît pas du tout avant sa seconde abdication et son départ pour Sainte-Hélène. Et il y a donc un premier mystère dans la rencontre entre Napoléon et Lascaz, parce que si Lascaz deviendra son confident, finalement celui qui arrivera à coucher sur le papier sa parole pour l'éternité, pourrait-on dire, eh bien, Lascaz, jusqu'en 1815, est un inconnu. Un inconnu qui est un petit peu, semble être là par hasard, alors peut-être pas, il est chambellan au palais de l'Élysée. Quand Napoléon décide de partir et fait un petit peu l'appel de ceux qui veulent bien l'accompagner, alors au début il pense partir en Amérique, eh bien ils ne sont pas forcément très nombreux à vouloir le suivre, hein, c'est toujours pareil avec la déchéance des hommes, les courtisans s'en vont, et Lascaz est resté et a répondu à l'appel, et petit à petit il va entrer, si je puis dire, dans l'intimité de Napoléon, le servir, et jusqu'à devenir son confident.
Il a eu une première vie de géographe, c'est ça ? Ça l'a aidé dans sa relation avec Napoléon ? Charles-Éloi Vial ?
Alors, déjà Lascaz était à la base marin, puis ensuite, géographe, durant ses années d'émigration, il va rédiger un atlas qui est extrêmement célèbre à l'époque, où l'on va retrouver dans beaucoup d'écoles, dans des bibliothèques privées, publiques. C'est un très beau document d'ailleurs, très documenté, publié en 1802 exactement. Il va être réédité à plusieurs reprises. Et c'est surtout ça qui le rend célèbre, et c'est peut-être à cause de cet atlas que Napoléon le connaît, parce que c'est un atlas que Napoléon possède, qu'il a dans sa bibliothèque. On va d'ailleurs en montrer un exemplaire qui a appartenu à Napoléon lors d'une petite exposition à l'occasion du colloque, un exemplaire qui est conservé à la bibliothèque Mazarine. Donc Napoléon connaît le géographe, et le livre de Lascaz qu'il va emporter avec lui en partant à Sainte-Hélène, il n'a pas beaucoup de livres en partant sur l'île, et bien c'est le seul livre qui parle de Sainte-Hélène, où il va trouver quelques renseignements. C'est une île dans l'Atlantique Sud, un peu perdue, qui appartient à la Compagnie des Indes. Ce sont des renseignements qu'il va trouver dans l'Atlas de Lascaz, qui est publié en réalité sous le pseudonyme de Le Sage. Et c'est il a cette carrière de géographe. C'est aussi un atlas historico-géographique, donc il a aussi une petite réputation d'historien sans doute. C'est un atlas qui va être réédité. Et Lascaz, alors on le connaît comme chambellan, on le connaît comme conseiller d'État, donc il va connaître la notoriété comme auteur avec le mémorial, et ça va relancer les ventes de son atlas, et il va alterner ensuite, durant une bonne partie de sa vie, entre réédition du mémorial et de l'atlas. Et on voit qu'il avait un vrai sens d'homme d'affaires. Ça, on n'en parle peut-être pas assez. On imagine le scribe, le mémorialiste, le géographe, donc quelqu'un peut-être de studieux, d'assez discret. C'est aussi quelqu'un qui a un vrai sens des affaires, et ça rejoint ce que Pierre disait peut-être au moment de son départ avec Napoléon en exil. Il sent peut-être le bon coup éditorial. Il sent qu'il y a là un rendez-vous avec l'histoire à ne pas manquer. Comme marin, il avait eu d'autres rendez-vous avec l'histoire. Il a failli faire partie de l'expédition de la Pérouse, par exemple, mais il arrivait en retard pour l'embarquement. Donc là, il aurait été connu, enfin, parce qu'il se serait noyé avec la Pérouse. Mais avec Napoléon, avec ce départ en exil, il sent que son moment est venu, que son heure de gloire est venue et que là, il tient enfin un coup éditorial, je pense.
On va en parler dans quelques instants. Mais donc, Emmanuel de Las Cases, donc marin, puis géographe, puis conseiller d'État, est-ce qu'il était particulièrement proche de Napoléon, Charles-Éloi Viel ?
Alors, il ne l'est pas au départ, puisque comme Pierre le rappelait, c'est un chambellan mais assez obscur. Napoléon a beaucoup de chambellans, ils ne font pas tous leur service en même temps. Il lui a été un peu recommandé par l'impératrice Joséphine, mais comme beaucoup de monde, j'ai envie de dire. Il rédige d'excellents rapports quand il est au Conseil d'État, mais il n'est pas le seul. Et vraisemblablement, Napoléon ne les lit pas parce qu'il les reçoit pendant la campagne de Russie, donc il a autre chose à faire. Donc c'est quelqu'un qui passe un peu inaperçu. Mais il est présent. Il est présent à l'Élysée après la seconde abdication de Napoléon le 22 juin 1815. Et Las Cases est volontaire, alors que tous les autres s'enfuient, tous les autres partent. Les secrétaires de Napoléon s'éclipsent, les autres courtisans disparaissent en quelques heures. Napoléon se retrouve quasiment seul, à part ce petit noyau de fidèles. Et Las Cases, puisqu'il est volontaire, puisqu'il veut servir, Las Cases va se retrouver embarqué avec Napoléon, en compagnie, il faut le rappeler, de son fils Emmanuel Ponce, oui, qui est un adolescent et qui va venir avec lui, qui va servir de secrétaire à Las Cases.
Alors, un mot peut-être pour savoir comment Napoléon se retrouve à Sainte-Hélène. C'est une décision du Premier ministre britannique de l'époque, c'est ça?
Oui, tout à fait. En effet, les Britanniques décident de le déporter à Sainte-Hélène. Alors d'abord, ils le capturent. Enfin, il se rend aux Anglais parce que, eh bien, à Rochefort, alors qu'il pensait pouvoir passer en Amérique, eh bien, la flotte anglaise bloque son passage. Et donc, il prend cette décision de se rendre plutôt que d'éviter, pour éviter plutôt un combat ou une aventure qui serait perdue d'avance. Donc, il décide de se rendre et la décision est prise par Lord Liverpool de l'exiler à Sainte-Hélène parce qu'on craint le personnage, on pense capable de tout, et l'avoir en résidence surveillée à Londres, ça paraît trop dangereux, donc on l'envoie dans cette île perdue de l'Atlantique Sud, où il sera gardé par plus de 3000 hommes, 4 vaisseaux de guerre, etc. On déploie des moyens considérables, et sans doute jamais égalés dans l'histoire mondiale pour un seul homme, et on fait de cette île qui était à la base, une escale sur la route des Indes et qui appartenait à la Compagnie des Indes, une île prison pour Napoléon, et avec toutes les contraintes et, si je puis dire, toutes les barrières qui vont avec.
C'est une forteresse.
Une forteresse, oui. Forteresse.
Alors ce fidèle compagnon, Las Cases, va suivre Napoléon dans son exil sur Sainte-Hélène. L'empereur débarque sur l'île volcanique en octobre 1815, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un exil solitaire. Napoléon y débarque avec plusieurs compagnons de route, dont Emmanuel de Las Cases, Charles-Éloi Viel.
Oui, donc Las Cases s'agrège au petit groupe à la suite de l'empereur.
Ils sont combien ?
Au début, ils sont très nombreux, ils sont plus de 60, puis les Anglais vont forcer Napoléon à dégraisser son entourage. Ils vont être une quinzaine, si je ne me trompe pas, en comptant l'entourage de Napoléon avec Montholon, qui est un général, qui est également chambellan, le grand maréchal du palais, le général Bertrand, le général Gourgaud. Donc ça, c'est un petit peu le haut du panier dans la hiérarchie impériale. Ce sont des gens que Napoléon connaît, des gens qui ont des fonctions prestigieuses à ses côtés. Et Las Cases, qui est une position un peu ambivalente. Comme chambellan, il peut être considéré comme un des maîtres, un des courtisans, mais comme la liste est très courte dans l'entourage de Napoléon, il ne peut pas emmener beaucoup de proches. Il va être placé un moment parmi les domestiques, donc il accepte d'être considéré comme un moment comme comptable, comme secrétaire, comme caissier. Donc une fonction un petit peu subalterne, mais c'est une couleuvre qu'il avale, et Napoléon en réalité le considère comme son secrétaire. Et en réalité, dès la traversée sur le Northumberland, Napoléon commence à raconter ses souvenirs. Il s'ennuie tout simplement parce que le temps est très long en bateau à l'époque, toujours maintenant. Il s'ennuie et donc il commence à dicter ses souvenirs. Et le projet autobiographique de Napoléon s'esquisse à ce moment-là et se développe une fois arrivé sur l'île. Ça va commencer par les dictées concernant la campagne d'Italie, donc la première glorieuse campagne du général Bonaparte. Et Las Cases va commencer à prendre ses souvenirs en note. Donc Napoléon dicte très vite, il faut s'habituer à pouvoir prendre en note ses paroles avec une écriture qui est souvent très, enfin vraiment illisible. Puis ensuite, le jeune Emmanuel Ponce va mettre au net
le fils de Las Cases,
et ensuite les toute la petite troupe, toute la petite colonie autour de Napoléon qui s'installe à Longwood va se mettre à travailler les écrits de Napoléon, donc recopier, mettre au net, soumettre à l'empereur pour avoir des corrections, donc une sorte d'atelier d'écriture, mais dont Lascazes va être une des figures principales, puisque c'est avec lui, semble-t-il, que Napoléon préfère travailler.
Vous parliez d'ennui il y a quelques instants, est-ce que c'est vraiment l'ennui qui a déclenché l'écriture de ce récit, de ces mémoires?
Alors probablement au début, pour passer le temps sur le navire, Napoléon a commencé à raconter ses souvenirs, comme il aimait beaucoup de parler de lui. Ça n'est pas étonnant. Il y avait des officiers anglais à bord qui avaient aussi envie de faire un peu connaissance et d'écouter ce qu'il avait à raconter. Donc il commence à parler et à raconter sa vie. Et c'est à ce moment que Lascazes lui dit « Nous vivrons du passé, sire, n'avons-nous pas les vies de César et d'Alexandre? Vous vous relirez, sire. » Donc c'est la citation qui ouvre un petit peu le mémorial de Sainte-Hélène. Et on ne sait pas si c'est lui qui propose à Napoléon d'écrire une autobiographie ou s'il ne fait que reprendre un projet que Napoléon avait déjà dans la tête. C'est peut-être plutôt ça, puisqu'à l'île d'Elbe, il avait déjà commencé à prendre quelques notes autobiographiques, semble-t-il. Mais il y a le secrétaire idéal pour ça. Il y a un auditoire qui a vite de l'entendre. Il a du temps, donc il n'a en réalité plus rien d'autre à faire que de ressasser le passé. Donc c'est un projet qui s'impose quasiment de lui-même.
Qui s'impose pour aussi fixer la légende de Napoléon, Pierre Brondat.
Oui, bien sûr, et Napoléon parle à qui veut l'entendre. Mais alors, Lascazes rencontre en 1815-1816 un Napoléon qui n'a pas encore totalement renoncé, il faut dire. Napoléon communique, mais Napoléon espère encore pouvoir s'en sortir. Il le dit d'ailleurs à Lascazes au départ. Je pourrais me supprimer, mais dans le fond, je ne le fais pas parce que je suis encore dans l'espérance et dans la gloire, c'est-à-dire il veut encore sortir par le haut, il a compris qu'il pourrait s'en sortir par la communication c'est quelque chose qu'il maîtrise depuis la campagne d'Italie, c'est un fort, un excellent communicant, donc il prend un parti, il adopte une cause, si je puis dire, la cause libérale. Il sait qu'en Angleterre, bien, l'opposition à Lord Liverpool et à ceux qui l'ont emprisonné, ce sont les libéraux, et les libéraux militent pour lui, et il espère que peut-être à la faveur d'un renversement de gouvernement, eh bien, il soit ramené en Europe ou du moins connaissent des conditions de détention plus favorables. Donc il ne va cesser de se raconter, de parler, d'expliquer, de répondre aussi, parce que, évidemment, comme en politique, comme en État, il a été attaqué sur beaucoup de sujets, et donc il répond, il veut comme ça délivrer un message, et en même temps, il entreprend aussi, une entreprise mémorielle en dictant ses campagnes, en revenant sur le passé. C'est Lascazes qui en premier, commence à être seul avec lui, parce que sur le bateau, il est finalement le seul quasiment à travailler avec lui. Les autres sont atterrés, encore, si je puis dire, déprimés par la nouvelle, par la perspective plutôt de se rendre à Sainte-Hélène. Au Briard, quand Napoléon, c'est sa première demeure, il y restera 3 mois, et bien Lascazes est le seul avec son fils a resté avec lui nuit et jour, hein, même s'ils sont obligés de dormir dans le grenier, dans un espace très exigu. Donc c'est dire que Lascazes fait beaucoup d'efforts, et donc il devient un petit peu l'homme privilégié de Napoléon, le favori de Napoléon, d'autant qu'il parle anglais aussi, et il était marin, donc Napoléon, pendant la traversée, pose beaucoup de questions sur la marine et évidemment les bateaux de l'époque. Donc Lascazes est capable de répondre, il a de la conversation, c'est ce que dit Napoléon, par rapport aux autres compagnons qui sont des militaires et un petit peu plus rude, et ou alors comme Montholon, un petit peu trop poli, mais dont finalement la conversation est limitée. Donc avec Lascazes s'installe cette proximité, Lascazes note tout, et surtout Lascazes raconte. C'était un de ses principaux traits de génie dans le mémorial, c'est qu'il va alterner le récit du quotidien, un quotidien misérable, qui est celui de l'exil.
Il va tient un journal de bord.
Journal de bord, sur les privations. Donc il va montrer cet homme extraordinaire au sens premier du terme, qui est réduit, si je puis dire, en but plutôt à certaines mesquineries anglaises, il faut les appeler comme ça. Et par contraste, il raconte aussi l'épopée, qui elle, évidemment, est d'une autre dimension. Donc, entre ce clair-obscur, le mémorial se forge et devient une entreprise littéraire.
Il écrit combien de pages durant ce séjour, Lascazes, sur ce que lui raconte Napoléon ?
Alors, on, on, en quantité, c'est le nombre de pages, je ne saurais pas exactement le quantifier, mais disons que ça, au départ, son journal contient à peu près l'équivalent de 3 volumes de 400 pages hein, pour l'époque, hein, en format in octavo. Donc c'est quand même une masse assez considérable, parce qu'on oublie toujours que Lascaz ne reste que
quelques mois,
14 mois auprès de Napoléon, alors que, par exemple, Bertrand ou Montholon resteront presque tout au long des 6 années. Hein. Donc son travail est quand même concentré, son journal est quand même assez abondant, raconte beaucoup de choses, mais raconte que le début, si je puis dire, de l'exil, qui n'est pas encore le crépuscule de la vie de Napoléon.
Alors justement, pourquoi reste-t-il aussi peu de temps sur Sainte-Hélène ? Il l'accompagne à son arrivée en octobre 1815 et il repart quelques mois plus tard en 1816. C'était une volonté de sa part, d'Emmanuel de Lascaz, de quitter Sainte-Hélène, Charles-Éloi Vial ?
Alors justement, c'est un des points de débat, c'est un mystère dont on va débattre pendant le colloque. On ne sait pas trop pourquoi Lascaz est parti. Alors il y a plusieurs écoles où il y a plusieurs points de vue possibles. Premièrement, Lascaz a été, on le sait, expulsé par Hudson Law, l'impitoyable gouverneur de Sainte-Hélène, parce qu'il a tenté de correspondre clandestinement avec l'Europe en utilisant un jeune domestique à qui il a confié des messages secrets rédigés sur de la soie, donc quelque chose de tout petit qui peut se cacher dans une veste. Et ces messages devaient partir ensuite en Angleterre. Le jeune homme se fait saisir, Lascaz se fait arrêter, mettre au secret, on confisque ses papiers et finalement on l'expulse avec son fils au Cap et de là il est renvoyé en Europe. Donc il y a une expulsion et ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que Lascaz a fait exprès de se faire renvoyer parce qu'il estimait que son livre était fini. Comme Pierre l'a rappelé, il y a presque déjà 1200 pages d'écrits. En gros, ça commence à faire déjà un beau livre. C'était le moment de le faire paraître sans doute. En 1816, 1817, Napoléon, comme Pierre le rappelle, est en forme. Il n'a pas perdu tout à fait l'espoir d'être rappelé en Europe. Donc c'est le moment de faire paraître une sorte de brûlot qui critique les conditions de l'exil, qui rappelle à quel point c'est un grand personnage qui subit un traitement absolument injuste. Donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment de partir. Et peut-être que Lascaz fait exprès de se faire arrêter. Et ensuite, il espère publier son livre très rapidement. L'autre énigme, c'est de savoir si Napoléon était au courant. Est-ce que Lascaz est parti sans rien dire à l'empereur ? Est-ce que l'empereur a prêté la main ou a donné son assentiment à cette arrestation qui est un coup monté ? On ne le sait pas vraiment. Donc il y a plusieurs écoles. Moi, je pense que Lascaz l'a fait exprès et que Napoléon était très surpris qu'il ait tombé des nues. Je crois que Pierre est peut-être plus nuancé.
Non, parce que le hic dans cette histoire, c'est qu'il n'aurait pas réussi puisque les Anglais s'emparent de son journal. Donc il part sans le futur mémorial. Alors, un petit mot, singulier. Pourquoi les Anglais saisissent ce journal ? En réalité, c'est Hudson Law qui le fait saisir parce qu'il le lit et il s'aperçoit qu'à longueur de page, il est cité. Or, Hudson Law n'a qu'une peur, c'est que, ce journal soit publié. Or, comme il n'est pas évidemment en sa faveur, des critiques arrivent à Londres. En fait, c'est d'abord, une motivation personnelle parce que le moral ne contient pas, le journal de Lascaz ne contient pas de secrets ou de choses forcément compromettantes, mais met en cause le gouvernement britannique, met en cause surtout Hudson Law, donc les Anglais s'en emparent. Donc, si le coup était monté, il est raté puisqu'il ne récupérera son journal qu'en 1821 à la mort de Napoléon. Alors, Lascaz est à Longwood. De l'atmosphère change alors qu'il était très proche de Napoléon, pratiquement le seul à être auprès de lui, même si les autres arrivaient dans la journée. À Longwood, tout le monde s'installe en même temps. Et c'est une petite cour qui commence avec ses jalousies, avec ses perfidies, qui s'installe dans cette petite maison. Lascaz est directement menacé par le général Gourgaud qui ne cesse de le rudoyer. Les Anglais aussi ne l'apprécient pas parce qu'ils ont compris que Lascaz était un homme de lettres et qui était en train d'écrire des choses justement contre eux. Donc Lascaz a peur d'être pendu. Effectivement, il y a une atmosphère comme ça assez délétère qui le poussera à ne pas revenir à Longwood parce qu'il est arrêté, mais il a la possibilité de revenir et il refuse. Il dit « je m'en vais, donc... » c'était qu'effectivement, on pourrait se dire, ben, oui, il a tout monté comme ça, il s'en va. Sauf que donc, son journal est saisi. Pour écrire ses lettres, ce sont deux lettres qui ont été saisies, ces lettres secrètes. Une est à sa probable maîtresse en Angleterre. Donc c'était quand même... s'il avait l'intention de faire révéler ses lettres, c'était quand même dévoiler sa liaison, ce qui était quand même un peu curieux. Et une autre lettre fort longue à Lucien Bonaparte. Je veux dire, pourquoi écrire, passer des heures et des heures à rédiger quelque chose que l'on veut être pris. Donc il y a des incohérences. Oui. Les deux, on va en débattre justement lors du colloque, comme l'a rappelé justement Charles Éloi. Il y a un mystère du départ de Lascaz. En tout cas, il est parti, mais sans son journal.
Et oui, effectivement. Il croit pouvoir rentrer et s'atteler à la rédaction de l'ouvrage. Mais donc, tout ne se passe pas comme prévu. Le manuscrit est confisqué. Il va le récupérer en 1821, donc au moment de la mort de Napoléon. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe entre 1816 et 1821? Est-ce que d'autres biographes, d'autres personnes se sont lancées dans l'écriture de mémoires sur Napoléon? Charles-Éloi Vial.
Alors, ce sera aussi un point abordé dans le colloque. Le mémorial de Sainte-Hélène paraît dans un contexte éditorial qui est extrêmement favorable, qui est le tout début, les premiers frémissements de ce qu'on appelle la fièvre des mémoires, c'est-à-dire cette période des années 1820-1830 où on connaît un véritable déferlement d'autobiographies qui arrive sur les étals des libraires, principalement sur un petit peu la fin de l'Ancien Régime, mais surtout la Révolution et beaucoup l'Empire. Donc, tous les grands proches de Napoléon, tous les serviteurs de l'empereur, les domestiques, les valets, vont écrire leurs mémoires, qui sont plus ou moins sincères, plus ou moins authentiques. Et ces premiers frémissements commencent dès les années 1818-1819. On voit paraître les premiers souvenirs de dames du palais de Joséphine, de quelques généraux d'Empire, quelques travaux d'historiens aussi, principalement sur la fin de l'Empire, la campagne de Russie ou la campagne de France. Donc il y a une curiosité du public. Parce que Napoléon est une figure qui a été complètement éclipsée par le gouvernement royal. Il y a une sorte d'omerta ou de chape de plomb qui tombe sur les années de l'Empire. Et on se rend compte très tôt, un général d'Empire dit ça, je crois, en 1821, déjà, on ne sait plus Napoléon. Comme si les jeunes gens commençaient à oublier ce qu'ils avaient entendu dans leur enfance, les exploits de l'empereur, comme si les adultes, il y a eu beaucoup de morts pendant les guerres de l'Empire, mais comme si les adultes ne voulaient pas se souvenir. Donc il y a une tendance à oublier Napoléon et les mémoires sont là pour attiser ou réveiller un petit peu cette flamme napoléonienne. Et le mémorial arrive dans ce contexte qui est celui de la publication de témoignages de premier ordre. Et le mémorial, en réalité, va être le plus important de tous puisque c'est celui qui est le plus construit, le plus pensé politiquement et ça va aussi pendant longtemps être le plus long. C'est quand même un ouvrage colossal qui va faire 8 volumes dans sa première édition. Donc c'est quelque chose d'assez dense, d'assez énorme et ça va prendre place dans toutes les bibliothèques très naturellement. Et Lascaz va ouvrir la marche à d'autres publications. On peut en citer quelques-unes. Les plus célèbres à l'époque, ce sont par exemple les mémoires du baron de Beausset, qui est préfet du palais impérial, du valet de chambre Constant, de Bourrienne, un des premiers secrétaires de Bonaparte, de la duchesse d'Abrantès, qui ne sont pas très fiables. Mais on a comme ça toute une série de mémoires qui vont marquer la mémoire collective, justement, qui vont prendre place dans toutes les bibliothèques et qui vont ensuite servir de source à tous les premiers historiens de l'Empire. Ça va devenir des ouvrages incontournables, un peu les masses de granit de la bibliographie napoléonienne. Et Lascaz est vraiment le plus important de tous.
Le plus important, le plus légitime peut-être. On décompte donc plusieurs volumes, 8 volumes, plus de 2000 pages, si je ne me trompe pas. Entre le manuscrit original écrit sur Sainte-Hélène et cette publication de 1823, il y a de nombreuses évolutions. On dit qu'il y aurait 2/3 de neuf par rapport au manuscrit original. Que s'est-il passé entre-temps, entre l'écriture sur l'île de Sainte-Hélène et puis la publication? Lascaz a complètement fait parler son imagination. Pierre Brandat.
Alors, pas complètement, sans doute. Il a rassemblé d'autres souvenirs. Non, évidemment, en 1821, lorsqu'il récupère son journal, la perspective n'est plus la même. Il ne s'agit plus de défendre un exilé, mais, si je puis dire, de glorifier un mort, puisque Napoléon est disparu. Donc, le mémorial doit se transformer, enfin, son journal doit se transformer en testament, ce qui n'était pas au départ. Donc, Lascaz rectifie certains passages, inscrit Napoléon dans une démarche, si je puis dire, continue comme ça, testamentaire, ce qui n'est pas le cas depuis le départ. Donc, il insiste sur beaucoup d'aspects. Il rajoute des éléments, des passages qu'il avait sans doute vécu, mais qu'il n'avait pas noté, parce qu'en qu'entre-temps, avant le mémorial, sont parus le journal d'O'Meara, qui était le médecin irlandais de Napoléon, qui, lui, décrit des épisodes, donc il rajoute des épisodes ainsi. Il y a quand même toute la partie aussi, lorsqu'il quitte Sainte-Hélène et puis qu'il se rend au Cap et ensuite, donc qu'il ajoute. Néanmoins, effectivement, le mémorial a fort grossi. Alors, il ajoute, c'est surtout ça qui est un peu plus embêtant, mais des phrases qui sont devenues célèbres. Hein. Par exemple, « Quel roman que ma vie », aurait dit Napoléon, ne figure pas dans le journal d'origine. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment entendu, pas entendu ? Enfin, en tout cas, le mémorial a été retravaillé. Alors, retravaillé d'ailleurs avec d'anciens compagnons d'exil, dont Mamluk Ali, complété et sans doute rendu plus littéraire, parce que il fallait le concevoir comme les derniers mots du grand homme. Et la chose la plus paradoxale, c'est que Napoléon avait dicté et même rédigé souvent directement lui ses mémoires, qui sont essentiellement militaires. Mais le style est trop sec, ses mémoires seront publiées en 1828, eux aussi en 8 volumes. Hein, plusieurs campagnes sont décrites, l'Égypte, l'Italie, et la campagne 1815 par exemple. Mais ça n'aura guère de succès d'ailleurs, ils seront réédités une fois, puis il faudra attendre les années 2000 pour qu'on en ait une autre réédition. Donc le mémorial les effacera complètement alors que c'était directement la parole de Napoléon.
Oui, ça me paraîtrait étonnant.
C'est plutôt un précis militaire. Non, ce qui fonctionne, c'est le mémorial, parce que le mémorial, j'en parlais tout à l'heure, cette dimension littéraire qui n'existe pas dans les autres écrits ou les autres journaux, où les autres journaux se contentent de rapporter les propos, notent un petit peu sèchement tout ça, un petit consigne. Lascaz fait plus que cela. Et Lascaz, sans le savoir évidemment, conçoit comme une sorte d'œuvre cinématographique, parce qu'il a, ce récit au jour le jour, et à des moments où Napoléon s'arrête et donc parle de sa postérité, et c'est ce phénomène de clair-obscur que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi ce qu'on appelle en cinéma, et pardonnez-moi ce mot anglais, le flashback. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de films biographiques où la personne est en fin de vie, se confie à quelqu'un, dans un quotidien misérable parce que c'est la fin de vie, et puis cette personne se souvient, ce qui permet de développer les autres parties de sa vie. Donc en fait, l'œuvre de Lascaz littéraire est déjà un peu cinématographique, ce qui le moderne donc, ce qui va assurer son succès. Et j'ajoute aussi que le parti qu'avait choisi Napoléon pour s'en sortir, c'est-à-dire le parti libéral, est le parti qui va triompher politiquement. Et donc le message politique qui reste dans le mémorial est aussi un message moderne. Donc entre le fond et la forme, tout se conjugue pour que le mémorial écrase tous les autres récits de la captivité ou livres qui ont pu paraître autour.
On va parler de la dimension politique dans quelques instants, mais revenons sur l'œuvre, la dimension cinématographique de l'œuvre. La construction en flashback, c'est résolument nouveau pour l'époque ?
Alors, cette espèce de alors on n'a pas tout comparé, mais à ce point, je pense que oui, effectivement sur 8 volumes et de construit de cette manière avec ces longs développements, parce qu'il ne s'agit pas simplement de 2-3 phrases de Napoléon, il y a des paragraphes entiers qui reviennent à la fois qui reviennent sur le passé, donc qui décrivent le présent, et ensuite il y a aussi ce qui fera le succès du mémorial, beaucoup de portraits, si je puis dire, sans filtre de personnages de l'époque, ce qui d'ailleurs posera beaucoup de problèmes à Lascaz, qui sera obligé de rectifier ensuite le mémorial pour un petit peu atténuer les choses, mais il restitue les jugements de Napoléon sur un tel. Donc ce sont des gens encore vivants qui intéressent, si vous voulez, ces jugements-là aussi porteront et resteront dans l'histoire du coup.
C'est vrai c'est vrai que le modèle à l'époque, c'est plutôt celui des confessions de Rousseau. Donc, c'est vraiment regarder en arrière et pas faire des allers-retours entre passé, présent et même futur. Donc là, on a quelque chose qui est assez novateur, qui se démarque de la démarche autobiographique de l'époque et dans ce qu'on lit des mémoires qui sont publiées à la fin de l'Ancien Régime, sous le Premier Empire, au début de la Restauration. C'est vrai que ça... on regarde en arrière, on ne regarde pas forcément en avant, ou alors on a parfois des journaux, mais c'est vraiment, on publie un journal qu'on présente comme un document clos, une sorte d'artefact du passé qu'on exhume. Parfois, on peut avoir des publications de lettres, vraies ou fausses, notamment dans les romans. Donc là, il y a vraiment une démarche entre passé, présent, futur, qui est assez singulière et qui vient aussi, on le sait, de la perception que Napoléon a du temps, puisque pour lui, finalement, passé, présent, futur ne font qu'un. Il est le même partout, il n'a pas l'impression d'avoir changé, il est très fier d'être lui. Enfin, il y a une sorte de certitude d'être immuable chez Napoléon, d'être toujours figé dans sa gloire. Donc, il se voit à Sainte-Hélène comme il se voyait pendant la campagne d'Italie. Donc, comme il est toujours la même personne, pour lui, parler de son passé ou parler de son présent, ça revient un petit peu au même. Donc, il y a un rapport de Napoléon au passé. Il y a son propre passé qui est très singulier, ce qui facilite aussi la démarche de Lascaz. Et effectivement, ce fondu enchaîné, ces flashbacks que l'on retrouve dans l'œuvre de Lascaz. Ensuite, d'autres auteurs vont essayer de faire la même chose. On voit chez certains mémorialistes qui viennent après Lascaz des tentatives de faire des allers-retours entre le passé, leur présent. Et ça marche beaucoup moins bien. Il y a un talent littéraire chez Lascaz qui ne se trouve chez personne d'autre, mais qui est peut-être aussi, même si Lascaz avait une très belle plume, c'est peut-être aussi derrière le talent de Napoléon.
Donc un ouvrage aussi avec des contours assez flous, il s'agit à la fois d'un récit, de mémoire, de traité politique, mais je voulais revenir sur le terme même de mémorial. Pourquoi utilise-t-on le mot mémorial à l'époque et pas plutôt de biographie ou de mémoire Charles Éloi Vial.
Alors, c'est un terme que l'on commence à retrouver à cette époque. C'est vrai qu'on parle plutôt de journal, on peut retrouver parfois plutôt mémoire, mais mémoire c'est peut-être un petit peu banal finalement, et Lascaz avait prévu d'appeler ça plutôt journal à l'époque, mais le terme mémorial s'impose au moment de la publication, je pense quasiment peut-être même au moment de la mise en page, au moment de prévoir la page de titre, et il y a aussi l'idée de faire la somme d'une vie de dirigeant, puisqu'en général, quand on voit un mémorial sur les étals des libraires à l'époque, c'est plutôt un recueil de documents administratifs que peut produire un souverain ou un ministre pour montrer qu'il a eu une bonne gestion durant ces années d'activité. C'est un petit peu l'idée de, par exemple, Louis Bonaparte, le frère de Napoléon, ancien roi de Hollande, avait fait paraître un recueil de documents administratifs sur sa gestion du royaume de Hollande qui avait été qualifié de mémorial justement à l'époque. Donc c'est l'idée de revenir sur des fonctions officielles. Donc je pense que c'est ça qui prédomine, mais le véritable titre en réalité c'est Mémorial de Sainte-Hélène ou Journal. Donc il y a les deux qui se mélangent. Là aussi, on a la capacité à fusionner différents genres littéraires pour créer un objet qui est entièrement neuf et qui justement va plaire au lectorat parce que c'est quelque chose qu'on ne lit pas ailleurs.
Et oui, ce mémorial, ce journal est un succès en France et ailleurs aussi, Pierre Vanda.
Oui, le, tout au long du 19e siècle, au 20e siècle aussi, il se diffusera absolument partout, en Europe, dans le monde. En France, il connaîtra beaucoup de rééditions. Et cet ouvrage qui effectivement mélange plusieurs genres littéraires, on ajoutera aussi l'illustration dans les années 1840, on en parlera dans le colloque. C'est un élément également assez important. C'est comme si, si vous voulez, à travers à l'étranger, mais aussi en France, comme si le mémorial était un livre qui s'adaptait en permanence à son époque. Il s'adaptait dans sa diffusion, dans sa présentation, dans son titre, donc dans son illustration, parce que le 19e siècle, eh bien, fera du mémorial justement le véritablement le monument littéraire de Napoléon. Donc, l'illustrera, le mettra en scène, si je puis dire, à la fois dans les reliures, dans la beauté des éditions. Le XXe siècle, du moins dans la deuxième moitié, aura une approche plus scientifique, paraîtra assez dans les années 30, une édition dans la Pléiade, donc il y aura une approche plus analytique, mais je veux dire qu'il considère le mémorial à la fois œuvre littéraire et œuvre historique, donc il continue d'intéresser, puis d'entrer, si je puis dire, dans une autre modernité encore. Au moment la bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier ressortiront des ouvrages du mémorial richement illustrés, par exemple, et jusqu'en arriver, effectivement, ou si je puis dire, à notre période où on est plus sur la recherche d'archives, etc. Enfin, on développe plus cet axe-là, et eh bien, c'est d'avoir retrouvé, avec la fondation Napoléon, le journal original qui était, dont une copie était conservée à Londres.
Au British Museum.
Et de le publier au British Museum, et donc de revenir à la source, si je puis dire, qui était le journal, ce qui a permis ces comparaisons. Donc le mémorial ne cesse d'évoluer au fil des années. Il a été repris par exemple, par différents régimes. On sait qu'évidemment, Churchill l'a lu, Staline aussi. Dans l'Italie des différentes années, que ce soit au 19e, il est publié, republié. Il est même reconfiguré. Des étudiants italiennes ont re-rédigé, refait le mémorial, si je puis dire, à leur façon. Enfin bref, il n'y a pas un seul mémorial, il y en a des centaines, à tel point qu'il existe des collectionneurs, ou du moins un collectionneur, qui a pour volonté de collectionner toutes les éditions dans le monde entier, dans toutes les langues françaises du mémorial. Je ne sais pas s'il y est arrivé, mais en tout cas, ça doit remplir plusieurs pièces.
Donc le livre connaît une grande postérité. Il est récupéré politiquement. Au moment même de sa publication, quel effet politique a-t-il en France? Il indigne les royalistes, j'imagine, et Charles Loyal.
Bah, en réalité, pas tant que ça. C'est un livre qui ne passe pas inaperçu. On va beaucoup en parler, mais il n'est pas saisi. La police n'inquiète pas Lascazes. Il n'est même pas placé sous surveillance. Napoléon est mort. C'est un témoignage sur un défunt. Il n'y a plus d'enjeux réellement politiques. La restauration est plutôt dans une période de stabilité. Tout est tranquille en France. Donc on commence à laisser paraître des livres sur Napoléon sans vraiment poser de problème à leur auteur. Donc la restauration est confortée. Le mémorial est publié sans problème. Par contre, il va être beaucoup lu, il va être beaucoup critiqué. Alors, on va attaquer Napoléon à travers Lascazes, la façon qu'il a de se présenter comme le messie du libéralisme, le défenseur des valeurs de la Révolution, de la liberté, de l'égalité, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On va beaucoup critiquer ça en rappelant que ça n'est pas tout à fait la réalité de l'Empire. Donc, il y a aussi un mouvement d'analyse historique de l'Empire qui va s'enclencher à ce moment-là, donc c'est important pour nous, mais il va aussi y avoir des critiques de détails. On va peut-être finalement plus chipoter Lascazes sur des petits détails que sur des grandes idées. Par exemple, il a noté à un moment une critique de Napoléon à l'écrivain Bernardin de Saint-Pierre, et il va y avoir des torrents d'articles parce qu'on ne critique pas Bernardin de Saint-Pierre, c'est un écrivain exceptionnel, et il va y avoir ça dans des journaux, des tribunes à n'en pas finir. Donc les critiques se portent plus sur les détails, ce qui explique que Lascazes va beaucoup corriger son texte, puisque, comme Pierre l'a rappelé, il va y avoir de très nombreuses rééditions. Jusqu'à sa mort en 1842, Lascazes corrige des détails, donc des détails qui peuvent mécontenter certaines personnes, des personnes toujours en place sous la Restauration, ou des figures un petit peu incontournables. Il va corriger des coquilles, évidemment, parce qu'il y en a un certain nombre. Donc là aussi, le mémorial évolue durant toute la vie de Lascazes. D'une réédition à l'autre, ça n'est jamais tout à fait le même texte. Après 1830, après la chute des Bourbons sous la monarchie de Juillet, où là, Napoléon retrouve vraiment droit de cité, on peut vraiment en parler publiquement, et Louis-Philippe essaye de récupérer la figure de Napoléon, là, il peut rajouter certains passages qui mettent vraiment en cause ou les Bourbons, ou certains proches des Bourbons, certains anciens serviteurs de l'empereur qui ont ensuite servi la monarchie. Ensuite, il va continuer à retravailler certains passages. Il va prendre en compte les protestations de la famille impériale, par exemple. La reine Caroline ne trouve que son mari Murat n'est pas très bien traité. La reine Hortense va s'avouer déçue par certains passages. Donc, il y a beaucoup de réécriture et de micro-réécriture. C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas encore été tout à fait évoqué, mais ce serait de lister tous les changements d'édition en édition. C'est quasiment un sujet de thèse de critique, enfin de ce qu'on appelle la littérature génétique, donc la jeunesse d'une œuvre. C'est une œuvre qui continue de muter. Elle est en perpétuelle mutation. Donc ça, c'est important. Mais dès le départ, ça n'est pas vraiment quelque chose de politique. Ou alors, la Restauration échoue à voir la portée politique de ce livre. Et ce n'est que petit à petit que la génération qui arrive à l'âge adulte sous Louis XVIII et Charles X, c'est la génération en réalité de Musset, des Confessions d'un enfant du siècle, qui découvre qu'elle est prisonnière en réalité d'une monarchie passéiste, qui regrette l'Ancien Régime, qui va se tourner vers le mémorial comme une sorte de bréviaire du libéralisme, et l'importance politique va venir ensuite dans un second temps. Et si vous relisez, donc je vous ai parlé de Musset, qui parle de la pierre de Sainte-Hélène qui s'abat sur le monde pour rappeler au peuple l'idée libérale, vous avez aussi dans Stendhal, dans le Rouge et le Noir, Julien Sorel qui parle du mémorial de Sainte-Hélène, qui est son bréviaire, son Coran, donc l'ouvrage sacré dont il se sert pour essayer de rêver un avenir meilleur.
Effectivement, vous avez cité donc Musset, Stendhal. En fait, le livre a eu une portée politique, mais aussi littéraire à l'époque, au XIXe siècle. Il est cité par de nombreux auteurs dans la littérature de l'époque.
Et oui, non, ce qui est Pierre important, Bonnard. C'est qu'effectivement, il précède la vague littéraire qui va consacrer Napoléon, hein, à travers les écrivains Alexandre Dumas, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Musset et tant d'autres. Donc, les plus belles plumes du 19e siècle qui vont célébrer Napoléon et qui vont effectivement s'emparer du mémorial et, si je puis dire, à sa suite et avec lui. Commencer la vague romantique et nostalgique par rapport à cette époque, ce qui, alors même que durant son règne, Napoléon n'avait pas eu, si je puis dire, de grandes plumes à son service, hein, la seule plume qui était de grand talent, c'était Chateaubriand. À ce moment-là, il était plutôt opposé, et justement, Chateaubriand lui aussi mutera à cette époque-là, et lui, ce seront les mémoires d'outre-tombe dans lesquels il va célébrer Napoléon de la plus éclatante des manières. Évidemment aussi une grande part de Chateaubriand là-dedans et une mise en scène de son propre personnage, mais enfin, il n'empêche que ce courant littéraire qui est absolument énorme, hein, il faut penser au Comte de Monte Cristo, etc., de Dumas, tout cela fait créer en France une nostalgie immense, un regret sans doute exagéré, mais qui conforte le mémorial et fait du mémorial une des premières salles de ce courant, eh bien, qui amèneront le retour des cendres de Napoléon en 1840. Hein. On peut très, très clairement dire que sans le mémorial, ça aurait peut-être pas existé. Enfin, en tout cas, le mémorial a puissamment aidé ce retour des cendres et cette glorification de Napoléon en 1840, c'est-à-dire 20 ans après sa mort. Hein.
Le mémorial va être édité donc de nombreuses fois. Lascaz signera ses nouvelles éditions. Est-ce que c'est tout ce qu'il devient après ce succès populaire? Est-ce qu'il va consacrer toute sa vie à toutes les rééditions du mémorial, ou est-ce qu'il va revenir à sa vie de géographe? Qu'est-ce qu'il devient, Charles-Éloi Viel?
Alors Lascaz, comme je le disais tout à l'heure, est un homme d'affaires. Donc il va suivre avec beaucoup d'intérêt les différentes rééditions. Il va retravailler constamment le mémorial. Il va s'occuper également de son atlas en parallèle. Donc, il gère ses deux succès et il s'occupe de toucher ses droits d'auteur qui vont lui permettre d'acquérir une fortune assez, semble-t-il, tout à fait respectable. Il va essayer d'investir un petit peu dans l'immobilier. Il a une belle maison à Passy qui est meublée de souvenirs napoléoniens. Il tient un petit salon littéraire. En parallèle, il va entamer une carrière politique. Il va être élu député sous la monarchie de Juillet, en même temps que son fils d'ailleurs, qui est également député. Mais comme il commence à être âgé, en réalité, il siège assez peu à la Chambre. Sa santé décline, il va devenir presque aveugle. Donc il devient un petit peu une sorte d'ermite, un ermite réfugié à Passy, qui ressasse ses souvenirs, qui dicte, comme Napoléon dictait à Sainte-Hélène. Il va dicter à sa fille les ajouts du mémorial, il va dicter une partie de sa correspondance. On voit son écriture qui est de plus en plus tremblante. Il arrive de moins en moins à écrire lui-même, c'est quelque chose d'assez touchant. Donc il passe ses années, il est célèbre, mais comme il est un petit peu enfermé chez lui, on le voit peut-être un petit peu moins. Alors il y a des reportages de curieux qui vont faire des visites à Lascaz, qu'on vient voir un peu comme une relique du temps passé. Il ne va pas à Sainte-Hélène en 1840 puisqu'il est en trop mauvaise santé. C'est son fils qui retourne sur l'île pour le retour des cendres. Il est là, par contre, aux Invalides pour accueillir le catafalque et le cercueil de l'empereur, en même temps que d'autres témoins de l'épopée. Donc il s'efface petit à petit et il meurt en 1842. On avait un peu oublié qui il était. Il a supervisé la dernière édition du mémorial de son vivant, qui est une édition illustrée dont Pierre parlait, qui est très très riche. Donc il s'occupe de cette édition et il s'éteint tout doucement. Et il y a un entrefilet dans les journaux qui disent Monsieur de Lascaz est mort, ni fleurs ni couronne, l'enterrement aura lieu à telle heure dans l'église de Passy. Donc c'est vraiment une mort très discrète, c'est quelqu'un qui s'efface, et ensuite la légende prend le dessus, on se souvient uniquement du chambellan qui suit l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène, qu'on retrouve ensuite dans la peinture, dans la gravure. Il va être représenté, on va aussi avoir une intervention là-dessus dans le colloque, les représentations, donc l'illustration du mémorial, et Lascaz est un acteur à part entière de cette illustration. J'ai retrouvé un projet de gravure devant illustrer le mémorial. On a Napoléon et l'éditeur a donné comme instruction au dessinateur Lascaz en plus petit. Donc c'est vraiment, il est derrière l'empereur, tout discret, et il continue à noter pour la postérité.
Vous vous demandez, Pierre Branda, dans le cadre de ce colloque, si ce mémorial avait été publié pendant l'exil de Napoléon et non pas quelques années plus tard, en 1823, aurait-il eu la même portée ?
Alors, on peut se le demander parce que s'il était parti avec son journal, il l'aurait publié sans doute assez rapidement, probablement en Angleterre, parce qu'en France, il aurait été interdit à ce moment-là. Il serait alors intervenu dans une autre vague éditoriale qui était, qui consistait à, dans la publication de lettres venues de Sainte-Hélène ou prétendument venues de Sainte-Hélène. Ça avait commencé par la publication d'un médecin anglais qui avait été à Sainte-Hélène avec Napoléon et qui avait publié des sortes de lettres arrangées, et cette publication avait connu un grand succès, hein, ça s'appelle Les lettres écrites à bord du Northumberland. Ensuite, quand, à travers ce succès, il faut savoir que Napoléon a lui-même rédigé de fausses lettres qui s'appelleront Les lettres du Cap, et dont il est l'auteur, et qu'il fait attribuer à Lascaz par divers indices.
Et sont restés anonymes.
Donc en fait, mais tous ces ouvrages-là sont des ouvrages de circonstances qui visent à aider Napoléon et le Parti libéral, eh bien, à comme ça construire une alliance pour que les hommes prennent le pouvoir et pour que Napoléon quitte Sainte-Hélène. Donc, si le mémorial était intervenu dans cette vague éditoriale, il aurait sans doute eu du succès, mais n'aurait pas eu le même accueil. Néanmoins, il possédait évidemment d'éminentes qualités littéraires. Il est possible qu'il soit resté. Il aurait fallu que Lascaz fasse d'autres rééditions, mais on aurait vu que, eh bien, il avait doublé son manuscrit. Enfin, des problèmes se seraient posés. C'est pas certain qu'effectivement il aurait pu connaître ce succès, mais néanmoins il aurait survécu parce que les autres écrits étaient ou trop, si je puis dire, orienté politiquement ou trop fabriqué, tandis que celui de Lascaz avait déjà ses qualités littéraires.
Napoléon serait-il devenu Napoléon sans ce mémorial ? Ça sera ma dernière question. Charles-Éloi Vial ?
Alors, Napoléon serait peut-être pas tout à fait le même sans le mémorial. On n'aurait pas la même légende et on n'aurait sans doute pas la même historiographie non plus. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on fait ce colloque. C'est parce qu'on se rend compte que le mémorial est un objet fabriqué. C'est un ouvrage qui a été réécrit, peut-être même un petit peu trafiqué, on peut le dire. On l'a longtemps considéré comme une source primaire, comme un document d'archives, comme un matériau sincère, authentique, dans lequel on peut puiser des informations. On s'est rendu compte, grâce à la redécouverte du manuscrit original, que c'est en réalité un ouvrage qui a été retravaillé, qu'on doit critiquer, qu'on doit prendre plutôt comme une source secondaire. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est faire évoluer l'historiographie napoléonienne pour justement prendre un peu de recul par rapport au mémorial. Donc ça implique de l'étudier comme un objet historique au lieu de le prendre comme quelque chose d'intouchable, d'impossible à critiquer, de foncièrement juste. C'est peut-être la parole de Napoléon, c'est beaucoup la parole de Lascaz, mais c'est avant tout un objet historique qu'il faut démonter, examiner de très près pour bien le comprendre et qu'on ne peut plus accepter tel quel, comme le faisaient encore les historiens au XIXe et même encore au XXe siècle.
Mais en revanche, dans la littérature, on peut toujours évidemment le lire et le considérer plus comme un ouvrage de littérature d'ailleurs qu'un ouvrage historique, même si il y a évidemment des éléments importants. Et il a déclenché des passions. Je pense notamment à l'écrivain Jean-Paul Kaufmann, qui a écrit La Chambre noire de Longwood, qui a été imprégné du mémorial et qui donc a lui-même ajouté une œuvre littéraire qui a connu un immense succès elle aussi. Donc il a créé un imaginaire autour de Napoléon, un de plus, je dirais, parce que Napoléon en avait déjà créé lui-même beaucoup, hein, un imaginaire de plus qui est celui de Sainte-Hélène, hein, une sorte de rêverie mélancolique et dramatique. C'est finalement Lascaz qui a écrit le dernier acte de la vie de Napoléon. Il l'a écrit avec talent et oui, sans le mémorial, Napoléon aurait été différent.
Merci à tous les deux, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial, pour tous ces éclairages. Donc, pour approfondir le sujet, je vous rappelle qu'un colloque autour du mémorial de Sainte-Hélène est organisé les 15 et 16 novembre prochains à l'auditorium de l'Institut, donc Quai Conti à Paris. Un colloque organisé par la Fondation Napoléon. Vous y serez tous les deux. Vous participerez aux tables rondes en compagnie de nombreux autres invités. On peut toujours s'inscrire ?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, les inscriptions sont encore ouvertes. Venez le plus nombreux possible.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Fondation Napoléon, sur la page de notre émission également. Et j'ajoute que le site de France Mémoire a également consacré un dossier autour du mémorial de Sainte-Hélène. On y trouve une notice que vous avez rédigée, Charles-Éloi Vial. Tout est à retrouver sur le site de France Mémoire. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Canal Académie.